Vous écoutez, on lit pour vous.
Le retour en force des Cozy Crimes, un texte d'Émilie Carpentier paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Si je vous parle d'une certaine Agatha Christie, ça vous dit quelque chose? Rares sont les lecteurs et lectrices n'ayant jamais posé les yeux sur un roman de celle que l'on a surnommée « La Reine du Crime ». Bien qu'elle soit certainement la plus connue à avoir écrit des romans de type « cozy crimes », elle est cependant loin d'être la seule, ce genre littéraire faisant un retour fulgurant depuis quelques années. Petit village aux communautés tissées serrées, meurtres parfois loufoques, salons de thé et gourmandises, citoyens et citoyennes qui s'improvisent détectives et touches d'humour constituent le béaba des « cozy crimes ». De vraies lectures bonbons, légères à souhait et sans éléments gore ou trop violents. En effet, même si les histoires sont le théâtre d'un ou de plusieurs meurtres, elles se passent généralement d'éléments sordides et mettent plutôt l'accent sur des personnages attachants, récurrents tout au long de la série et des lieux hauts en couleur. On ne peut parler de ce genre de lecture sans mentionner l'œuvre de M.C. Beaton. Écrivaine prolifique ayant été publiée de la fin des années 1970 jusqu'à son récent décès en 2019, elle est surtout connue pour sa célèbre Agatha Raisin. Dans le premier tome de la série « La quiche fatale », Albin Michel, Agatha a quitté le domaine de la communication dans lequel elle a fait fortune afin de s'offrir une retraite anticipée et de s'installer dans les Cotswolds. Femme plutôt belliqueuse et acariâtre, elle commence rapidement à s'ennuyer à la campagne et peine à se faire de nouvelles amies. Il lui vient donc l'idée de participer au concours de la meilleure quiche du village afin de se faire connaître. Son plan réussira, mais pas de la manière escomptée, car lorsqu'un meurtre survient à la suite de l'ingestion d'une quiche empoisonnée, cette dernière s'avère être celle qu'Agatha a apportée, mais qu'elle n'avait bien entendu pas elle-même cuisiner, même si le règlement du concours stipulait de le faire. On ne se lasse pas de cette quinquagénaire au caractère revêche qui figure dans une série totalisant plus de 30 tomes, et il en va de même pour un autre personnage créé par M.C. Beaton, ayant lui aussi sa propre série, Hamish Macbeth. Les aventures de ce policier écossais sont très différentes de celles d'Agatha Raisin, et c'est ce qui fait la force de l'autrice. Malgré la centaine de romans qu'elle a écrits, elle réussit à ne pas être redondante et nous offre toujours une histoire de qualité. Si vous êtes gourmand ou gourmande comme moi, je souhaite attirer votre attention sur une série particulière qui vous fera saliver, Les enquêtes d'Anna Swenson, Le Cherche-Midi. Dans le premier opus, Meurtre et pépites de chocolat, Anna revient dans sa ville natale après un échec amoureux et décide d'y ouvrir une boutique spécialisée en biscuits faits maison. Un beau matin, horreur. Son livreur est retrouvé assassiné derrière sa boutique et, comme commerçante connaissant tout le monde, elle enquêtera afin de débusquer le coupable. Les romans de cette série baignent dans les concours de pâtisserie, les charlottes aux fraises et les cupcakes. Et on a même droit à quelques recettes en complément des histoires. Pour une lecture des plus originales, ma prochaine suggestion s'arrête sur le « Murder Club du jeudi », le livre de poche, de Richard Osman. Les protagonistes de ce roman sont des personnes âgées vivant en maison de retraite qui auront vite fait de déboulonner les stéréotypes accolés au troisième âge. Une petite bande d'octogénaires se réunit chaque semaine afin de discuter d'anciennes affaires criminelles n'ayant pas été réglées. C'est ainsi qu'ils acquièrent leur surnom de « Murder Club du jeudi ». Alors que l'assistant directeur de leur résidence pour retraités est retrouvé assassiné chez lui, c'est entre deux verres de vin que nos quatre amis mèneront leur enquête. Après cette lecture, vous verrez vos grands-parents sous un autre jour. Bien que les Cozy Crimes soient issus de la catégorie des livres policiers, les amateurs de romance ne sont pas oubliés. Dans « Rendez-vous avec le crime », Robert Laffont, Le lecteur est même amené à découvrir les coulisses d'un site de rencontre dont les participants feront plutôt une rencontre avec la mort. En plus du retour du mystérieux Samson O'Brien et sa tentative de sauver son commerce de la faillite, notre héroïne Delilah doit donc également tenter de trouver qui s'acharne à tuer les clients de l'agence de rencontre du Vallon. Premier titre d'une série de 8, cette histoire vous tiendra en haleine tout au long de votre lecture. Ces suggestions ne sont qu'une petite partie de mes coups de cœur parmi le vaste choix de romans d'enquête légers. Car, comme mentionné précédemment, le genre Cozy Crimes étant en plein essor, le choix de romans s'offrant à vous est gargantuesque. Je pense notamment à l'autrice Anna Dennison et sa série « Les mystères de Honeychurch City » que j'ai lu avec délectation, ou encore « Le chat du bibliothécaire » de Miranda James, Flammarion, Québec, dans lequel nous suivons les aventures du bibliothécaire Charlie Harris et de Diesel, son adorable et énorme chat de race Maine Coon. Des lectures parfaites en tout temps, que ce soit pour l'été au bord de la piscine ou pour l'hiver à côté du foyer et accompagné d'un bon chocolat chaud. On a du plaisir à retrouver des personnages familiers à chaque tome d'une nouvelle série, un peu comme des amis. Une autre raison pour laquelle les Cozy Crimes portent bien leur nom. C'était « Le retour en force des Cozy Crimes », un texte d'Émilie Carpentier paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.
Une bouffée d'oxygène à high level. Un texte de Cristiano Pereira, paru le 19 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. On ne sait pas exactement combien de voitures portant des plaques d'immatriculation d'ours polaires sont arrivées à high level depuis jeudi matin. Ce que l'on sait, c'est qu'elles sont nombreuses, probablement assez pour transporter environ 15 000 personnes. En des circonstances normales, les 715 kilomètres qui séparent Yellowknife de High Level devraient prendre environ 8 heures à parcourir. Mais nous ne vivons pas des circonstances normales. La majorité des personnes évacuées ont mis beaucoup plus de temps à cause de sections de la route momentanément coupées par la proximité des flammes, de la fumée épaisse, des bouchons ou des longues files d'attente pour l'acquisition d'essence à Fort Providence. Les gens se reposent là où ils le peuvent. Les voitures et les caravanes occupent toutes les aires de repos de la seconde moitié de la route. À l'entrée de High Level, des flèches indiquent des campings spécialement préparés pour accueillir nos voisins du Nord. C'est la première trace de l'opération que la ville de High Level a rapidement mise en place pour accueillir ceux qui, au Nord, fatigués et effrayés, ont quitté leur maison pour fuir les flammes. Au centre de High Level se trouve l'Arena Complex, le premier des nombreux centres d'accueil pour les personnes évacuées que la province de l'Alberta a mis en place au cours des dernières heures. À l'intérieur, c'est avec une rapidité remarquable que chacun dispose de nourriture et de boissons, de paroles, de soutien et d'un accès à une douche. Keila Wardley, responsable du développement communautaire de la ville de High Level, a déclaré à Média Ténois que les gens ont commencé à arriver le jeudi matin à 9 heures et qu'au moins 1 300 d'entre eux s'y étaient déjà inscrits. On sait très bien ce que ressentent les personnes évacuées, a-t-elle déclaré. En 2019, on a également connu un grand feu ici et on a été tous évacués vers d'autres lieux, a-t-elle poursuivi. C'est pourquoi nous sommes ici pour apporter tout notre soutien et répondre à toutes les questions. On essaye de faire de notre mieux pour que les gens se sentent en sécurité et confortables. Madame Wardley assure que les Ténois sont très reconnaissants et garantit qu'elle n'abandonnerait pas ses voisins du Nord. Nous serons avec eux jusqu'à ce qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour rentrer chez eux. La générosité des Albertains du Nord se manifeste également à 500 mètres de l'aréna. Il y a une pompe où les voitures plaquées TNO font la queue pour faire le plein de l'essence offerte par la mairie de High Level. Depuis jeudi matin, Marvin Marines fait le plein de centaines de voitures sans demander un centime. Alors que l'essence coule, il sourit, fait la conversation et tente de remonter le moral des gens. Il nous explique que les files d'attente sont permanentes, du matin au soir, et précise qu'il ne sait pas combien il a distribué, mais peut-être environ 3000 litres d'essence par heure. La plupart des gens, nous assure-t-il, arrivent ici avec un réservoir presque vide. Christopher Schaefer fait la queue pour prendre de l'essence, sa voiture étant remplie de bric-à-brac, de vêtements et de jerrycans. Il a quitté Yellowknife jeudi après-midi et a échappé à la première avalanche de bouchons qui s'est produite quelques heures auparavant. Il avoue ne pas avoir été trop bouleversé par les images de destruction qu'il a vues pendant le voyage, parce qu'il a déjà travaillé dans les services de secours. « Je suis entraîné à faire face à ce genre de situation », a-t-il commenté, détendu. Et il montre une sorte d'amulette. Accroché au rétroviseur de sa voiture, se trouve une pièce $1 qui avait été brûlée dans un incendie à Fort McMurray. Christopher avoue que sa plus grande préoccupation était le bien-être de ses amis qu'il a laissés derrière lui à Yellowknife et qui cherchaient encore un vol pour être évacués, eux ainsi que leurs chiens. Il est maintenant en route pour Hope Lake, où il prévoit de camper et de travailler à distance. Malgré les circonstances, il est optimiste. Compte tenu du peu de temps que les gens ont eu pour s'échapper, tout s'est bien passé et j'espère simplement que les vols d'évacuation se dérouleront bien. De retour au centre d'accueil des évacués, on rencontre Paul Mainville, un Québécois qui s'est installé à Yellowknife il y a quelques mois. Il semble satisfait du centre d'accueil. Cela me réconcilie avec l'humain, de voir ce centre qui nous aide, nous donne de la bouffe et nous permet de prendre une douche. Après avoir passé plusieurs jours dans un climat d'incertitude à Yellowknife, jusqu'à l'annonce de l'ordre d'évacuation, il a décidé de partir avec un groupe de Franco-Ténois, un convoi de 5 voitures avec 13 personnes, qui, jeudi, à 2 heures du matin, est parti du stationnement du Grand Indépendant. Le voyage l'a frappé. Nous sommes passés par des zones de fumée intense. Mais le plus marquant a été quand nous avons traversé la zone d'entreprise avec la dévastation totale de la forêt à gauche et à droite, sur 25 ou 30 kilomètres, et des bâtiments calcinés, décrit-il. Ça m'a laissé un froid, parce que cela nous a montré à quel point l'événement avait été violent. J'ai beaucoup pensé aux équipes. Elles ont dû travailler vraiment fort pour ne pas que ça continue. Ce feu, poursuit Paul, c'est une bête, un monstre. C'était une bouffée d'oxygène à High Level. Un texte de Cristiano Pereira, paru le 19 août 2023 dans l'Aquilon des Territoires du Nord-Ouest.
Glamorous, pourquoi tu me regardes dans les yeux, mes abdos sont plus bas. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Première dramédie à mettre en scène un personnage central non-binaire, la série Glamorous navigue entre comédie et critique sociale, et même si elle n'évite pas certains clichés, elle s'en tire fort honorablement, bien campée entre plaisir coupable et plaisir tout court. Madeline Addison, Kim Cattrall, ancienne mannequin internationale et maintenant magnat de la marque de cosmétiques Glamorous by Madeline, erre dans un centre commercial du New Jersey. Elle y croise Marco Meia, interprété par Miss Benny, youtubeuse et influenceuse assez connue, et impressionnée par son savoir-faire et son franc-parler, elle décide de l'embaucher comme seconde assistante. Les accords non-binaires apposés au personnage de Marco ne sont pas innocents puisque cet élément constitue l'un des pivots de la série. Du haut de ses talons, celle-lui est plongée au cœur d'une industrie où le rose peut rapidement virer au gris puisque la compagnie connaît son lot de problèmes financiers et cherche désespérément à gagner un nouveau public. L'arrivée de cette novice, littéralement sortie de nulle part, n'est par ailleurs pas sans susciter rivalité et jeu de pouvoir chez plusieurs de ses collègues, de même qu'un intérêt très charnel. L'un des grands atouts de la série est d'aller bien au-delà du queer de service en présentant plutôt une galerie de personnages diversifiés et bien développés. La première assistante, Venetia, Jade Payton, est bisexuelle et tombe dans l'œil d'une designeuse, Brit Ayesha Harris, mais saura-t-elle voir plus loin que sa carrière? Marco se retrouve au cœur d'un triangle amoureux entre Ben, Michael Ashsu Rosen, un geek du département graphique, et Parker, Graham Parkhurst, un sportif baraqué. On y retrouve également la présence de plusieurs drag queens, dont Priyanka, Mark Suknanen, grande gagnante de la première saison de Canada's Drag Race. Le personnage secondaire le plus charismatique et désarmant demeure cependant Chad, Zane Phillips, fils de Madeline, dont l'existence est partagée entre la direction des ventes et la musculation intensive. L'acteur arrive à combiner un look survitaminé de Captain America gay, Captain America, et une insécurité à fleur de peau quant à sa propre valeur. Le personnage aurait cependant mérité d'être plus approfondi. Créé par Jordan Nardino, qui a œuvré au succès de Smash et de Desperate Housewives, Beauté désespérée, la série est truffée de répliques hilarantes. Nous sommes des soldats au service du rouge à lèvres. Poussez-vous, je suis gay. Le film le plus ancien que j'ai vu, c'est Titanic, et je ne suis pas certain de savoir qui est Cher. Au-delà de son lot de magouilles souvent tirées par les cheveux, la série évite certains lieux communs en présentant des relations amoureuses relativement complexes dont la conclusion n'est pas télégraphiée dès le premier épisode. Elle ne se contente également pas de présenter un personnage non-binaire au parcours exaltant, mais l'inscrit au contraire dans un réel où il fait face à l'inconfort de certains hommes vis-à-vis une expression de genre non traditionnellement masculine. Le rythme est bien marqué et même si votre intérêt pour l'industrie du maquillage avoisine le zéro absolu, on se surprend à suivre la série avec passion. Les références culturelles abondent parfois un peu trop, mais plusieurs frappent dans le mille, notamment au cœur d'une course haletante au suspect qui se veut un pastiche du film Clue. Également au menu, une incursion à Provincetown où on nous présente un lip-sync intégral du Cell Block Tango de la comédie musicale Chicago avec un Chad coincé dans une robe plus que légère. Une saison 2 est d'ores et déjà annoncée et on ne peut qu'être intrigué puisque la conclusion du dernier épisode amène un lot de révélations pour le moins surprenantes. Info. La série est disponible en anglais et en français dans un doublage fort bien fait, si ce n'est de la prononciation de certains termes anglais qui écorcheront les oreilles québécoises. Les 10 épisodes de Glamorous sont présentés sur Netflix. C'était Glamorous, pourquoi tu me regardes dans les yeux, mes abdos sont plus bas. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 juillet 2023 dans le magazine Fugue.
Le coin du livre, une famille élargie. Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Le coin du livre fait flèche de tout bois et persiste. Voilà 65 ans que cette librairie située à Ottawa propose fièrement de la littérature francophone à la population qui, cela dit, le lui rend bien puisque plusieurs visiteurs l'ont adopté, conférant au lieu le statut de service essentiel. Devenue une véritable institution, l'endroit n'est pas près de disparaître avec sa propriétaire Nathalie Savard et ses collègues, dont l'élan pour le livre ne fait aucun doute. La ville d'Ottawa comptant une majorité de citoyens anglophones, la librairie Le Coin du Livre demeure pourtant bien vivante avec son offre en français. Son secret réside en grande partie dans sa longue tradition d'un personnel attentif à sa clientèle et épris par tout ce qui a trait au livre, en particulier ceux écrits par des auteurs franco-canadiens. Citation « Je suis une passionnée de la littérature depuis ma tendre enfance et avoir vu mon papa dans ce milieu m'a toujours donné le goût d'y travailler pour partager cette passion. » Fin de citation, soutient Nathalie Savard, l'actuelle propriétaire qui, en octobre 2022, a repris le flambeau de son père, Normand Savard. Ce dernier l'avait lui-même acquis de Maurice Lauzier, l'un des quatre fondateurs de la librairie, mais il y travaillait déjà depuis 1967, animé par une constante volonté, celle de faire connaître au plus grand nombre le livre francophone en Ontario. Enhardi par sa résolution, il déploie mille et un moyens pour parvenir à ses fins, tissant des liens avec les établissements scolaires et parcourant la province afin de gagner les différentes foires du livre, montant parfois jusqu'à Wawa à près de 11 heures de route d'Ottawa. Fièvre contagieuse. De son côté, Nathalie Savard prend part aux activités de la librairie peu après qu'elle a été vendue à son père. Citation « Je venais de finir le secondaire », précise-t-elle. J'ai fait des études collégiales en marketing seulement pour avoir un diplôme. Fin de citation. Ses connaissances dans le domaine lui seront cependant utiles, assurant à la librairie une visibilité toujours plus grande et agissant selon les valeurs qu'elle a toujours portées, soit de communiquer son profond attachement pour les mots des littératures franco-canadiennes. C'est pourquoi Savard fille n'hésite jamais à prendre parole à la radio ou à la télévision pour conseiller les lecteurs, et rien ne la satisfait davantage que de voir certains d'entre eux passer le paillasson de la librairie pour se procurer les livres suggérés. Citation « Donner le goût de la lecture est le plus beau cadeau », fin de citation, insiste la propriétaire qui, de cette façon, ressent l'impression du devoir accompli. Et ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire en sorte de toujours étendre la palette des fidèles. Nathalie Savard exprime le souhait d'organiser un rendez-vous mensuel avec des auteurs, croyant en l'importance de la rencontre entre les écrivains et le public. Et parce qu'elle estime que les occasions de discussion autour du livre ne sont jamais trop nombreuses, elle aimerait parmi les prochains projets dans la mire instaurer un club de lecture auquel chacun serait bienvenu. Également, elle chérit l'intention d'agrandir la librairie de manière à pouvoir y aménager une aire de causerie où les gens auraient le loisir de prendre place et consulter les œuvres qui leur font envie. D'ailleurs, qui sont-elles ces personnes prenant plaisir à déambuler entre les rayons de la librairie? Des clients indéfectibles, des membres des effectifs scolaires, des parents et des grands-parents d'enfants en immersion ou qui désirent perpétuer la langue française. Citation Depuis plus de 65 ans, la mission première a toujours été de génération en génération de promouvoir la littérature francophone dans un milieu minoritaire. Fin de citation, rappelle la propriétaire des lieux. Le livre jeunesse est le genre le plus vendu au coin du livre, suivi des romans canadiens pour adultes. Signalons du reste que les livres canadiens constituent 75 % de l'inventaire du magasin, éloignant toute ambiguïté quant au choix de ses priorités. Citation. Nous avons une très grande sélection de livres d'autrices et d'auteurs locaux. C'est très important pour nous de pouvoir en faire la promotion et de donner une bonne sélection à notre clientèle. Fin de citation, continue Nathalie Savard. Ce qui incarne à la fois un plaisir et un défi, car tenir debout en tant que commerce indépendant francophone en Ontario relève d'un petit miracle en soi. Surtout que la province ne bénéficie pas comme le Québec de la loi 51 sur le livre, qui engage les institutions à s'approvisionner dans une librairie agréée de leur région administrative, ce qui permet de bénéficier des profits engendrés grâce aux collectivités. Sans protection similaire, le bassin important de potentiels acheteurs que représentent les écoles, les bibliothèques, etc., est en droit de se ravitailler librement, même auprès de la maison d'édition, laissant pour compte les librairies qui représentent pourtant une courroie de transmission importante pour le livre et dont il faut prendre soin. Une fratrie accueillante. Pour pourvoir à la bonne marche d'une librairie telle que Le Coin du Livre, mais à tout s'avère nécessaire, à débuter par un sens de l'organisation bien aiguisé. S'ajoute à cela la gestion des employés et une administration impeccable. Citation. J'arrive dès 6 heures le matin pour lire mes courriels et faire les commandes des libraires, explique Nathalie Savard. Ensuite, les portes ouvrent à 9 heures, et voilà que ma passion commence avec les suggestions à faire aux clients et les recommandations aux écoles. Fin de citation. Sans omettre la venue des représentants pour l'achat des livres, mais le service demeure ce qui prime pour la libraire propriétaire, qui peut alors se laisser aller à parler avec les lecteurs et remplir sa première mission d'amener à la découverte de nouvelles œuvres. Pour l'accompagner dans l'aventure, une équipe de libraires dévoués et un collaborateur de tous les instants, Benoît Surprenant, qui veille à toute la logistique informatique. Citation. Nous sommes une équipe qui s'entraide et nous formons une famille de travail. Fin de citation, affirme Madame Savard. En cela, la librairie s'inscrit dans la continuité, reconduisant le legs de père en fille pour élargir les rangs, lesquels se gonflent encore si on y inclut tous ceux et celles qui fréquentent Le Coin du Livre. C'était Le Coin du Livre, une famille élargie, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.